planning s'allège un petit peu pendant les vacances parce que forcément, il y a moins de monde. Ça n'empêche qu'on peut déjà se préparer pour le mois de septembre. On peut déjà avoir dans le cœur de dire, voilà, Seigneur, qu'est-ce que tu peux me montrer? Qu'est-ce que tu veux que je fasse déjà pour le mois de septembre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait permettre à l'Église d'avancer? Donc c'est important pour ça de pouvoir rester fidèle à l'écoute de Dieu et de vraiment voir ce que Dieu souhaite pour que l'on puisse être prêt en septembre. Vous êtes d'accord avec ça? Bon, j'ai plaisir à être là devant vous, à pouvoir vous partager la parole ce matin. J'essaye de récolter mes mails, puisque là j'ai prêté ma tablette et donc voilà, hop, on va, bon, c'est pas grave, je vais faire sans. Je vais faire mon prêche sans notes, juste avec mon PowerPoint. On va voir si Dieu va m'inspirer, s'il va pouvoir nous parler à vous et à moi pendant ce prêche. La dernière fois, c'est-à-dire la semaine dernière, je vous ai prêché, alors je ne vais pas vous faire une interrogation écrite, hein, bien que ça m'en brûle les lèvres. Hein. Interrogation écrite comme à l'école. Merci Arnaud. 20 sur 20 Arnaud. Voilà, il a gagné un point. Bravo Arnaud, tu es déjà prêt pour septembre. Il a déjà la vision pour septembre Arnaud. Et c'est vrai que comme le planning avait été assez chargé durant ce dimanche, j'ai dû écourter un peu mon prêche et je voulais aller un peu plus loin dans la persévérance, dans la vision. Et puis, j'avais vraiment cette vision pour ce matin de vous prêcher de la persévérance. Et puis, les choses ont changé, puisque aujourd'hui, le thème de mon prêche, c'est de pouvoir. Hop, voilà. J'ai intitulé mon prêche Passé, présent, demain. Ça va un peu dans la continuité de ce que j'ai apporté la semaine dernière, puisque le demain, je l'ai déjà prêché. J'ai déjà parlé de la vision la semaine dernière. J'espère que vous avez retenu un petit peu le fond de ma pensée. Et je pense fermement, j'ai dans mon cœur réellement que l'on doit être prêt parce que les événements s'accélèrent. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de regarder un petit peu les infos, les actualités. C'est vrai que moi, je les regarde un petit peu trop. Et je reste toujours aux aguets de voir un petit peu tout ce qui se passe dans le monde, en France également. Je surfe sur les différents sites chrétiens qui nous annoncent des nouvelles. Et je pense que le demain, il est très proche. Il est très proche où on doit être prêt. Je ne suis pas quelqu'un de toujours axé à me dire Jésus revient, Jésus revient, Jésus revient, même si c'est mon espérance et mon cœur aspire à ce que Jésus revienne. Effectivement, je pense qu'il va revenir bientôt. Est-ce que je serai encore vivant? Est-ce que je ne serai plus là? J'aimerais revoir son retour, j'aimerais voir son retour de mon vivant, mais il ne faut pas rester axé sur ça. Il ne faut pas rester axé sur le fait que Jésus revienne. S'il revient pendant qu'on est vivant, tant mieux, c'est une très bonne chose. On aura l'occasion de pouvoir de se réjouir avec, puisqu'on va voir enfin notre grand Dieu, celui qu'on sert. Mais j'ai aussi dans le cœur de pouvoir avoir une, comment dire, être prêt pour ça. C'est-à-dire que chaque jour, on doit se préparer. Et donc, lorsque je parle de passé, présent, j'aurais pu mettre futur. Mais je n'ai pas mis futur, j'ai mis demain. Parce que demain, c'est proche, c'est très proche. Et le futur, des fois, on se dit, le futur, c'est dans 1 an, 2 ans, 10 mois, 10 ans, etc. Et j'ai vraiment mis cette notion-là la semaine dernière sur la vision. C'est que la vision, il faut avoir cette patience en Dieu, cette patience de dire, voilà, Seigneur, c'est ton temps, c'est pas mon temps, c'est pas moi qui vais accélérer les choses. Je peux le faire, puisque je vais me tenir prêt dans la prière, je vais vraiment me mettre devant ta face et peut-être que je vais permettre d'accélérer le temps. Parce que des fois, Dieu prend le temps de nous armer, de nous équiper. Pardon. Mais donc, c'est pour ça que j'ai mis ici demain. On va partir dans le passé. Et le passé, pourquoi cette notion de passé? J'écoute beaucoup les gens. J'ai un peu. Pardon, j'ai avalé de travers. J'ai un peu cette envie. Et puis. Peut-être aussi cette déformation de fait de mon travail, puisque je dois écouter les gens pour pouvoir les aider, les conseiller. Mais j'écoute un peu les différentes paroles. Et c'est vrai que souvent, on entend souvent nos anciens, les personnes d'un certain âge, qui nous disent c'était mieux avant. C'est vrai qu'on avait plus de temps, on était moins accaparé par le boulot, par le temps qui accélère. Moi, je vois ma mère qui a 86 ans, me dit, me l'a encore dit cette semaine, elle me dit, mais le temps s'accélère. Une heure aujourd'hui n'est pas une heure d'avant. Et tous les anciens disent ça. Et souvent, ce qui revient, alors je ne dis pas que c'est ma mère, mais souvent, ce qui revient, c'est que c'était mieux avant. C'était mieux avant. Et pourtant, le passé est pour nous quelque chose que l'on doit pas effacer. C'est impossible d'effacer le passé. Mais on doit passer au-dessus de notre passé. Elle est belle, cette phrase. Passer au-dessus de notre passé. Il y a une phrase qui est pas mal, qui dit « Votre passé n'a pas d'avenir ». Votre passé n'a pas d'avenir. C'est-à-dire que le passé est passé. Le passé, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, on n'est pas encore à demain pour créer une machine à remonter dans le temps. Le passé est fait. J'ai aussi pour moi comme devise de ne pas regretter. Les regrets, ça ne sert à rien. Parce que le passé est passé. Les regrets, ça ne sert à rien. On peut avoir des remords, de dire, tiens, si j'avais su, j'aurais procédé comme ça, mais ce n'est pas des regrets. Regretter, ça ne sert à rien. Se dire, tiens, bah, j'ai un tel qui est parti dans ma famille, si j'avais su, j'aurais dit que je l'aimais. Ouais, mais si, avec des si, si j'avais su, j'aurais dit que je l'aimais, c'est passé, il est parti. Ne t'arrête pas à ça. Donc, on va lire 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Oh, merci Sandy. Ça, c'est une bonne Sandy. 1 Corinthiens 6, 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Alors déjà, ça commence fort. Alors c'est vrai que j'aime bien des fois des versets comme ça qui percutent tout de suite d'entrée. Et là, la Bible est très claire. Elle dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu ? Qui est injuste ? Quel est celui qu'on peut appeler injuste aujourd'hui ? C'est quelqu'un qui ne va pas marcher dans la justice de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas juste devant Dieu n'héritera pas le royaume de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas donc chrétien. Le terme chrétien est devenu un terme très générique aujourd'hui. J'ai eu l'occasion de parler avec certaines personnes, d'autres confessions que la nôtre, qui se disent chrétiens. Et puis des fois, ils vous disent même « je suis chrétien non pratiquant ». Oui, mais à la limite, je préfère qu'ils me disent « croyant mais non pratiquant » plutôt que « chrétien non pratiquant ». Parce que chrétien, c'est quelqu'un qui sert Dieu. Alors qu'un croyant, on peut croire en Dieu. Tout comme je crois que le soleil va apparaître demain. C'est une croyance. Je ne pratique pas, je ne vais pas attendre le soleil, je vais dormir pendant ce temps-là, mais je sais que le soleil va se lever. Par contre, si je ne crois pas dans le soleil, c'est différent, alors qu'il est là. Et là, les chrétiens, il y a des gens qui vous disent « je suis chrétien non pratiquant ». Il y a un non-sens, puisque être chrétien, c'est servir Dieu. Le fait de ne pas pratiquer, tu ne sers pas Dieu. C'est un non-sens. Et donc, c'est pour ça que là, l'apôtre Paul nous dit bien que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu, parce qu'ils ne servent pas Dieu, ils ne sont pas chrétiens. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu ? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. La liste est longue, parce que dans chacun des termes-là, on peut mettre pas mal de termes. C'est vrai qu'en ce moment, on est pas mal décrié, puisque y a eu le fameux mariage pour tous qui est arrivé. Et la Bible dit très bien qu'on doit accepter, on se doit, nous chrétiens, d'accepter les homosexuels. On doit refuser l'homosexualité, qui est complètement différent. Les homosexuels n'ont pas à être rejetés, parce que ce sont des gens que Dieu aime. Quand je dis des gens, ce n'est pas péjoratif, mais ce sont des personnes que Dieu aime, tout comme vous et moi. Et là, les efféminés, les adultères, les infâmes, les voleurs, les cupides, voilà, toute cette liste qui est là, eh bien, toutes ces personnes qui pratiquent ce péché n'hériteront pas du royaume de Dieu. C'est lourd ce que je dis là. Par contre, et c'est là ce que vous étiez du passé. C'est là ce que vous étiez. Je ne dis pas par là que... Alors attention, parce que là, ici, quand même une liste qui est quand même... Ce sont des péchés assez importants. Mais il n'y a pas de graduation dans le péché pour Dieu. Un péché est un péché. Aucunement dans la Bible, vous ne verrez une graduation de péché. Tu as volé, c'est pire que d'être en adultère. Non, la Bible ne le dit pas. Pardon ? La graduation, elle n'est pas... Ouais, pas bon. Non, mais c'est pas à ce niveau-là, c'est qu'après tu rentres dans la grâce. Une fois que Jésus est venu, il est venu sur la croix, il a pris tous les péchés. Il n'a jamais donné de graduation sur le bois du calvaire. Il a même pris un brigand à côté de lui, il lui a dit « ce soir, tu seras avec moi dans le royaume de Dieu. » Parce qu'il a cru. Et là, les Corinthiens le disent bien. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés. Là, pareil, on n'a pas dit « vous avez été justifié », mais que les injustes, vous avez été justifié que vous. Et il prend toute la liste et il dit bien « mais ». Mais tout ça, c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. On a un grand Dieu. On a un grand Dieu qui, et ça tu pourras regarder dans toute ta Bible, trouve-moi un seul passage où on revient dans le passé. Au contraire, à chaque fois qu'il y a les apôtres qui interviennent, qui voient une personne, ils parlent toujours du futur, de l'avenir. Demain, à partir de maintenant, tu vas faire ceci. Parce que tu es justifié, tu es lavé. À partir du moment où tu crois en Dieu et tu donnes ta vie à Dieu, Dieu te pardonne. Après, tu peux parler de la loi. Effectivement, dans la loi, il y avait plusieurs punitions. Et encore aujourd'hui, au niveau de l'islam, à partir du moment où tu voles, on te coupe une main. Ça, c'est une loi. C'est une loi qui est comme ça. Mais voilà, ici, ce passage de la Bible est très clair. On va parler après des différentes pratiques que l'on peut avoir. Parce que l'apôtre Paul dit bien que dans le passé, une fois que vous avez donné votre vie à Jésus, eh bien, vous arrêtez vos pratiques. J'ai été un petit peu cette semaine sur Facebook, je suis en contact avec quelqu'un sur Facebook et puis il met souvent des images comme celle-là. Et dans nos pratiques, les pratiques que l'on pouvait pratiquer avant, il est primordial qu'une fois qu'on a donné notre vie à Dieu, eh bien, qu'il y ait certaines pratiques qu'on ne pratique plus. Alors ça fait beaucoup de fois le terme pratique, mais c'est important. Et là où j'ai vu, et j'étais un peu peiné, c'est que quand on met une photo comme ça, donc avec une icône, avec une représentation d'un dieu, puisque là c'est la Vierge, d'accord, qui est un dieu, j'ai lu des commentaires. Alors c'est vrai que ma tablette ne s'actualise pas, j'avais tout un commentaire qui était derrière, et j'étais peiné de lire ce commentaire de cette personne, parce qu'elle cette personne avait une sincérité dans son cœur. Elle a mis un commentaire qui est tellement sincère en disant, voilà, Mère des Roses, il l'appelle Mère des Roses parce qu'il y a plein de roses autour, tu es la mère de l'univers, des paroles très très fortes. Et cette personne peut très bien être très sincère dans son cœur, mais les pratiques, si vraiment on a un souhait de servir Dieu, il faut qu'on fasse attention à nos pratiques. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous donnez votre vie à Dieu, il y a des choses qui vont changer dans votre vie. Le passé est le passé, Dieu passe au-dessus. À partir du moment où vous allez être dans le présent, que vous allez donner votre vie à Dieu, il y a certaines choses où il faudra être vigilant. Donc ces pratiques de vénérer des dieux comme celui-là, ou comme celle-là, ce dieu-là, ce sont des pratiques qu'on ne peut plus faire. On a un dieu qui est jaloux. La Bible nous le dit, Dieu est un dieu jaloux. J'ai même l'impression que c'est quasiment la seule critique qu'on puisse faire à Dieu, mais c'est un dieu qui est jaloux. Alors qu'aujourd'hui, quand on dit que quelqu'un est jaloux, c'est péjoratif. Mais on a un dieu jaloux, pourquoi ? Parce qu'il nous aime tellement. Il nous aime tellement qu'il veut absolument qu'on le serve lui et lui seul. Et la Bible est très claire par rapport à ça. Elle dit bien, vous n'honorerez pas d'autre Dieu que moi. Et donc ces pratiques sont des pratiques qui énervent Dieu, le chagrinent, le mettent en colère. Et ce commentaire était vraiment triste dans le sens où, eh bien, Jésus, on l'a complètement mis de côté. On l'a complètement mis de côté. Et ça, c'est le passé. Aujourd'hui, on voit des gens qui pratiquent des choses sous le couvert d'être chrétiens et qui n'ont pas cette pratique que la Bible nous dicte. Et je pense que c'est important. Dernièrement, nous sommes allés au Vatican avec Pascaline. Je l'ai déjà partagé, mais j'ai été effaré de voir les pratiques qui peuvent se faire là-bas. Le fait d'honorer des cadavres, parce qu'il y avait il y a des cadavres du pape qui sont sous Saint-Pierre et on honore les cadavres. On honore des morts, etc. Ces pratiques, Dieu les refuse. Donc, dans notre vie, notre passé a été constitué de plusieurs paramètres qui restent dans le passé. Bien évidemment, Dieu va faire en sorte que nos péchés soient effacés. Il les efface, il le dit lui-même. À partir du moment où tu donnes ton cœur à Dieu, eh bien Dieu oublie ton péché et va le jeter dans la mer la plus profonde. Et il met un joli petit panneau en mettant « pêche interdite ». D'accord. Et ça, ça fait partie de ces pratiques. Mais ça ne veut pas dire que notre péché n'existe pas. Puisqu'à côté de ça, on peut garder des liens de notre passé. Je ne vais pas rentrer dans ce point-là, parce que c'est un point qui est important. Mais après, nous devons travailler sur nous-mêmes pour pouvoir être libérés de certains liens. Et donc, dans notre vie, on doit abandonner certaines pratiques comme celle-là. On peut même, des fois, sous le fait de donner sa vie à Dieu, c'est de carrément changer de vie. J'ai envie de citer cet exemple de Nicky Cruz. Est-ce qu'il y en a qui connaissent Nicky Cruz ? Nicky Cruz était un chef de gang aux États-Unis, un mec très mauvais, hein, faut dire ce qu'il est, hein, il pratiquait tout ce que vous pouvez imaginer. Et David Wilkerson a eu à cœur d'aller leur parler de Jésus à ce gang. Et donc, il est allé directement voir le chef de gang, qui est Nicky Cruz, qui aujourd'hui est un grand évangéliste, et qui est encore vivant d'ailleurs, puisqu'il était dernièrement à Montréal. Et cette personne a donné sa vie à Jésus. Alors, je vous passe toute l'histoire, mais il est arrivé devant David Wilkerson avec un couteau, il lui a dit « Je vais te tuer. Si tu parles encore une fois de Jésus, je te tue. » Et David Wilkerson lui a répondu « Même si tu me tuais et que tu me coupais en 10 000 morceaux, les 10 000 morceaux confesseraient Jésus-Christ. » Et ça, ça a touché Nicky Cruz qui a donné sa vie à Jésus. Et donc, il a dû forcément changer de vie. Et donc, ça, c'est un passé que Nicky Cruz tient. C'est son passé à lui. C'est-à-dire que avant de donner sa vie à Dieu, ça a été quelqu'un de mauvais. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on pourrait très bien, et c'est quelque chose qu'un jour je ferai, je pense me plonger dans tout ce qui est le pardon. Mais le pardon est le sujet le plus difficile à aborder dans le monde chrétien, dans l'Église. On n'est pas prêt à pardonner, on ne sait pas réellement pardonner. C'est facile de dire « oui, je te pardonne ». Je te pardonne, mais je te garde un chien de ma chienne. Je garde une petite rancœur. Quand on a un affront comme ça qui nous est fait par un frère ou une sœur, effectivement, on peut très bien garder ce souvenir de cet affront. C'est pas parce qu'on va pardonner à la personne qu'on va devenir les meilleurs amis du monde. Ça peut. Mais il faut qu'on puisse avoir effacé dans son cœur tout affront et aucune rancœur. C'est-à-dire que la Bible nous dit bien qu'on doit aimer nos ennemis. On peut avoir des ennemis dans le milieu chrétien. Ça ne devrait pas. Mais on peut avoir des personnes qui ont de la jalousie contre vous, qui ont de la rancœur, qui vous font des coups derrière qui sont pas cool. Mais ça veut dire que cette personne est en train de s'enfoncer elle-même. Si vous ne leur tenez pas rigueur et que vous leur pardonnez leurs affronts, c'est difficile ce que je dis. Mais c'est cette personne-là qui aura des comptes à rendre à Dieu. Vous serez blanc comme neige. La conclusion de mon prêche, là, vous le verrez tout à l'heure, mais c'est une autre image, d'ailleurs, je ne vais même pas la citer maintenant. Mais quand on voit ici, Dieu donne, Satan prête. Dieu donne sans compter, Satan prête avec intérêt. Et ça, c'est important. C'est qu'à partir du moment où Dieu vous dit « Ok, je t'accepte. Tu as été la personne que tu as été dans ton passé, mais aujourd'hui, je t'accepte tel que tu es. On va travailler sur toi, mais sache que tout ce que tu as vécu auparavant, je l'ai oublié. Je l'ai jeté dans la mer la plus profonde. Et aujourd'hui, ce que Dieu veut, c'est voir le présent et puis partir vers demain. C'est-à-dire que Dieu, et ça j'en reviens au prêche que j'ai fait la semaine dernière, Dieu va nous utiliser. Il va mettre dans vos cœurs des envies. Il va mettre dans vos cœurs des rêves, des visions. Mais Dieu va oublier avant. Ça n'empêche que des fois, on peut être lié par un péché. Et on peut très bien rechuter. Ça arrive. Et là, il y a une notion qui est importante. C'est de pouvoir venir à Dieu avec un cœur repentant et savoir demander aussi pardon à Dieu. Des fois, on a trop tendance à dire « Mais oui, mais Dieu est amour. Quoi que je fasse, Dieu, il est amour. Peu importe, je vais pécher et Dieu me pardonne. » Là où il y a le péché, Dieu n'est pas là. Parce que Dieu est pur. Dieu ne peut pas être dans la présence du péché. Donc Dieu va vous pardonner, mais ayez un cœur repentant. Moi, je crois que Dieu pardonne les péchés. Effectivement, on peut tomber. Mais il faut qu'on puisse avoir cette humilité de cœur pour venir voir Dieu et dire « Seigneur, écoute, excuse-moi, pardon. » Avoir un cœur sincère et dire « Seigneur, j'ai péché, je suis retombé encore une fois. » Et Dieu va te dire « Oui, ok, je vais t'aider. Là, je vais t'aider. Je sais, je te pardonne. » Parce que Dieu pardonne. Dieu est un père. Il a un cœur de père et Dieu pardonne. Donc, ces traces de péché ou ces traces de passé qu'on peut avoir, Dieu va nous aider à travailler dessus. C'est pour ça que des fois, on a un verset que j'utilise juste après, un verset qui pour moi est utilisé à bon comme à mauvais escient. C'est-à-dire qu'on dit dans la Bible, je crois que c'est celui d'après, c'est « Les choses anciennes sont passées, toutes choses aujourd'hui sont devenues nouvelles ». 1 Corinthiens 5, je n'en souviens plus, non, comme moi. On devait l'apprendre par cœur pour la formation biblique, vous voyez comme quoi. C'est 1 Corinthiens 2, je ne sais plus, on verra après. Ce passage de la Bible, effectivement, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu nous accepte tel que l'on est. Et toutes choses sont devenues nouvelles parce que Dieu nous prend. Et Dieu oublie le passé, oublie notre péché. Il va travailler avec nous pour qu'on puisse évoluer, grandir. Parce que quel est l'objectif de Dieu aujourd'hui ? C'est qu'on puisse s'élever au rang de disciple. C'est que l'on puisse grandir spirituellement. Mais parfois, ces liens qu'on pourrait avoir avec le passé, certaines personnes disent, mais oui, mais toutes choses sont anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, donc moi, avec le passé, je n'ai plus rien à voir. Je suis devenu nouveau. Oui, mais il y a, regarde bien, dans ta vie, des fois, tu peux avoir des liens avec le passé, ou tu rechutes de temps en temps avec ce péché. Et donc, il va falloir travailler dessus. Ça veut dire que toutes choses sont nouvelles, oui, parce que Dieu t'accepte tel que tu es, et Dieu te pardonne ton passé, mais sache que tu as encore des liens. Et là, la Bible nous le dit bien. C'est que les liens, il faut les briser au nom de Jésus-Christ. Accroche-toi au texte, j'ai enlevé les images. J'ai aimé cette image-là parce que on a toujours des images du passé qui reviennent. On a toujours ces images qui sont là. Et aujourd'hui, on a tellement de promesses qui sont dans cette Bible, ici, que les paroles qui sont dedans vont enlever les images. Elles vont les enlever, c'est-à-dire que nos souvenirs, les images peuvent toujours être là, mais grâce aux promesses qu'on a ici, on peut dire au diable, écoute, tu peux me rappeler mon passé tant que tu veux, sache que moi j'ai des promesses qui me disent que Dieu m'accepte et Dieu m'a pardonné. Et c'est pour ça que j'ai aimé cette image. Accroche-toi au texte, j'ai enlevé les images. Le texte, c'est la parole. Toujours revenir à la parole de Dieu, toujours revenir à ce qui est écrit, parce qu'on a des principes, des préceptes que Jésus nous a laissés, que Dieu nous a laissés. Chacun des livres est important. De Corinthiens 5, 17. Voilà, il manquait le 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. C'est beau. Moi, je trouve que ce passage, c'est une superbe promesse parce que Dieu nous accepte. Toutes choses passées sont passées. Aujourd'hui, toutes choses sont devenues nouvelles. Je t'accepte tel que tu es. Ça ne veut pas dire que le jour où vous devenez chrétien, vous êtes parfait. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être parfait. Parce qu'il n'y a qu'un seul, une seule personne qui était sur terre qui était parfaite, cette personne, c'était Jésus-Christ. Et quand je reviens à cette image de tout à l'heure avec la Vierge, alors ça, on l'appelle la Vierge, mais bon, à partir du moment où elle a eu Jésus et qu'elle a accouché, elle n'était plus Vierge. Mais dans ce commentaire, elle disait, mais voilà, tu es née sans péché et tu es morte sans péché. Moi, je suis désolé. Marie a péché comme tout le monde. Ce que Dieu a recherché, c'était la sincérité de cœur de Marie. Il a recherché aussi le fait de trouver une femme vierge, une femme impure, qui n'a eu aucune relation sexuelle. Et c'est ça, aujourd'hui. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ. La Bible est très claire, il nous a réconciliés par Christ. Il nous a réconciliés par Christ. Jésus est venu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jean 3,16. C'est le verset que tout le monde connaît, Jean 3,16. Afin que quiconque croit ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Que quiconque croit ne périsse pas mais ait la vie éternelle. Et qui nous a donné le ministère de la réconciliation? On est réconcilié avec Dieu. C'est pour ça que là, la réconciliation avec Dieu fait de nous des créatures nouvelles. Des créatures qui vont changer de vie. C'est-à-dire qu'on va changer notre vie dans notre façon de vivre, dans nos pratiques, dans nos croyances également. Aujourd'hui, un athée peut très bien, du jour au lendemain, croire en Dieu. J'y crois. Un athée peut croire en Dieu. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Tout à l'heure, je disais, notre passé n'a pas d'avenir. Effectivement, le passé n'a pas d'avenir. Mais qu'est-ce qu'on va faire d'aujourd'hui, du présent ? Qu'est-ce qu'on va faire d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va faire de demain? À partir du moment où on est une créature nouvelle et qu'on a vraiment pris cette conscience que Dieu était entré dans notre vie, l'objectif c'est de pouvoir être là où Dieu veut, avoir des buts. J'en reviens à ce mariage qu'on a vécu la semaine dernière. J'aurais pu témoigner 10 fois, 20 fois des personnes dans ce mariage. C'est vrai que le contexte ne s'y prêtait pas. Mais j'ai cette tristesse dans mon cœur en disant, mais ces personnes, c'est quoi leur objectif? C'est quoi leur objectif? Ce soir, elles vont se coucher, demain matin, elles vont se lever, demain soir, elles vont se coucher, après-demain matin, elles vont se lever, etc. Boulot, dodo, métro. Pas d'objectif. Ces personnes, à part s'ils croient à la réincarnation, mais ces personnes voient jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont vous dire, mais la vie est tellement courte, il faut en profiter. Mais après, c'est quoi après? Et on a ce privilège, on a cette grâce que Dieu, aujourd'hui, nous a repris avec lui. Que Dieu a accepté, nous, tels qu'on était, que ce soit Fred, que ce soit Arnaud, que ce soit n'importe qui ici, mais Dieu nous a acceptés. Et Dieu nous a dit, ok, avec toi, je vais faire quelque chose de bien. Parce que tu m'as donné ta vie, parce que tu m'as donné toi, ta personne. Eh bien, moi, j'ai des projets pour toi. Et on va avancer ensemble. Et le passé, il est ce qu'il est. On ne pourra pas l'effacer. Dieu peut très bien effacer certains souvenirs, effectivement, ça je le crois dur comme fer, mais Dieu va commencer à partir du présent, à partir du moment où vous allez dire « Seigneur, ok, je te donne ma vie, je veux qu'on y aille, qu'on avance, pas par pas. » Eh bien Dieu va prévoir le présent et va prévoir demain et va mettre des choses dans vos cœurs. Est-ce que vous croyez à ça? Vous y croyez fort? Il faut que ce soit ancré dans les cœurs, il faut que l'on puisse dire « Ok Seigneur, moi je crois en ça. » Je crois que toi, tu es celui qui a pris ma vie entre tes mains. Tu es celui qui va me diriger. Jésus a dit, hein, je m'en vais, je quitte cette terre, mais sachez, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tous les jours. Et c'est vrai que ces derniers temps, j'ai vécu des choses assez difficiles de par mon boulot. Mais j'ai cette et des fois, c'est difficile de dire, Seigneur, je te fais confiance. Les éléments ne sont pas en ta faveur ou en ma faveur à moi. Mais bon, je te fais confiance. On a tendance un petit peu à avoir la tête qui dodeline comme ça, mais dire, Seigneur, il faut que je te fasse confiance. Parce que c'est un commandement. Fais-moi confiance, je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. N'ayez pas peur de votre avenir. N'ayez pas peur du futur. N'ayez pas peur de ce qui va se passer cet après-midi, ce qui va se passer demain, ce qui va se passer dans les jours à venir. N'ayez pas peur parce que Dieu a tout entre ses mains. Dieu a tout entre ses mains. Dieu connaît le moindre détail de votre vie. Il connaît même le nombre de cheveux que vous avez sur la tête. Alors, pour moi, c'est moins difficile. Le livre des Lamentations est un livre dur. Tout à l'heure, on parlait du Lévitique, qui est un livre avec beaucoup de détails, etc., etc. Et Lamentations est un livre court. Il n'y a que 5 chapitres dedans, mais c'est la décadence de Jérusalem. Et dans ce livre, Dieu abandonne son peuple et il les laisse aux ennemis. Et Dieu va même se mettre du côté des ennemis. C'est dur, hein ? Parce que Dieu, des fois, quand il voyait l'état du cœur de son peuple, ne faisait pas de quartier. Il ne faisait pas de quartier, il disait, voilà, là dans les Lamentations, bah, Jérusalem, vous allez, ok, vous voulez pas m'obéir ? Hein, allez. Et on va lire là, Lamentations 3, 21 à 28. Donc les deux premiers chapitres, on voit réellement la décadence de Jérusalem, du peuple d'Israël qui est là, et on voit cette décadence. Et pourtant Jérémie, qui lui aussi se sent abandonné de Dieu, Jérémie, à un moment, a un sursaut. Et il va dire ça. Il dit, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Malgré les événements, malgré ce que la vie me réserve, malgré le passé que je viens de vivre, voilà ce que je veux dire dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Ce qu'ils ont vécu là, le peuple d'Israël et Jérémie en l'occurrence aussi, a été très dur. Mais Jérémie, il a repris cette confiance en lui, il a repris cette ferme assurance en Dieu, et il a dit, voilà, quoi qu'il arrive, si je reviens à Dieu, eh bien je sais que les compassions de Dieu ne sont pas à leur terme. Et que Dieu, si je reviens à lui, que je commence à lui obéir à nouveau, eh bien je sais que ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Parce que malgré tout, Dieu est fidèle. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, si on a un cœur repentant, avec un souhait sincère de dire à Dieu, écoute Seigneur, pardonne-moi, là j'ai encore un péché qui est là dans ma vie, j'ai encore chuté, je te demande pardon, pardonne-moi. Alors arrive un moment où on se dit même, hein, on peut très bien se dire, Seigneur, j'ai chuté, je ne sais pas combien de fois, à chaque fois je te demande pardon, est-ce que encore maintenant tu me pardonnes? Et Jésus, dans la Bible, a bien dit, vous pardonnerez 70 fois cette fois. Pas pour donner un chiffre avec une limite, hein, ça ne veut pas dire qu'au bout de 490 fois, les 491e fois, je ne te pardonne plus. Basta, au revoir. Non, c'était pour dire, voilà, moi je te pardonne. Voilà, tu peux y aller hein, dans une journée, aller pécher 490 fois. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. Je veux espérer en lui. Avoir cette espérance. Avoir cette envie d'aller encore plus loin. Cette espérance. Et de pouvoir dire, Seigneur Jésus, moi je continue. Malgré les éléments, malgré mon passé, eh ben, mon présent il est avec toi. Et même si tu m'as donné des visions pour l'avenir, Je commence à travailler dès aujourd'hui, même si je sais que tu vas revenir et je ne sais pas quand, puisque personne ne connaît la date. Et tant mieux à la limite. Mais voilà, moi, mon présent, il est avec toi. À partir de maintenant, je marche. Et je marche avec toi. Amen. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il est bon pour l'homme de porter le joug dans sa jeunesse. Il se tiendra solitaire et silencieux parce que l'Éternel le lui impose. J'ai arrêté là. On peut aller plus loin encore. Et j'ai arrêté au verset 28. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Est-ce que vous avez cette espérance en Dieu? J'ai un ami qui est parti au Mali pour faire la guerre, donc. Et il a fait l'Afghanistan, donc il est militaire de carrière, et je vous en ai déjà parlé. Et un jour, quand il m'a appelé, il m'a dit « Mais j'ai tellement fait de choses noires en Afghanistan que je ne peux plus revenir à Dieu. » Et apparemment, je ne connais pas les détails, mais il s'est un peu confié à son père, et apparemment, il a vu des choses pas piquées des hannetons, comme on dit. Et il a cet état de cœur aujourd'hui où il dit « Voilà, moi, je ne peux plus revenir à Dieu. Parce que j'ai fait tellement de péchés, de choses graves, que je ne peux pas revenir à Dieu. Dieu ne me pardonnera jamais. » Et mon discours, forcément, était de lui dire « Mais si, confie-toi en l'Éternel. C'est lui qui va t'apporter le repos. » Et donc, ça, c'était il y a quelques mois de ça. Il y a 15 jours, il est parti au Mali. Donc, quand ils partent, hein, c'est assez secret, ça se sépare. Et donc, j'ai pu partager un petit peu avec lui. Il me dit « Voilà, je pars au Mali. » Je lui dis « Tu pars quand ?» Il me dit « J'ai pas trop le droit de le dire. » Bon, ok. Et je suis revenu là-dessus. Je lui ai dit « Mais confie-toi en l'Éternel. Parce que Dieu va aller avec toi là-bas, au Mali, il va te protéger. » Cet homme, ce jeune, il a une trentaine d'années. Depuis que je le connais, ça fait maintenant 20 ans qu'on le connaît, je l'ai connu, il était tout petit. Non pas que je sois si vieux que ça, mais bon. Mais j'ai entendu des prophéties sur sa vie. Il a un appel d'évangéliste. Il a un appel sur sa vie d'évangéliste. Et il retarde. Et là, il s'est engagé dans l'armée, maintenant ça fait plusieurs années. Et je lui ai rappelé ça, je lui ai dit « Souviens-toi que Dieu t'attend. Et que si tu pars au Mali, Dieu va t'accompagner. Parce que Dieu t'aime, parce que Dieu est là pour toi. Et il connaît ton cœur. Et il a une croyance profonde en Dieu. Il a une sincérité et il est tellement droit. Il a une telle droiture de cœur qu'il se dit que par rapport à ce qu'il a vécu, il ne peut plus revenir à Dieu. » C'est dur de dire ça. C'est difficile de s'imaginer que quelqu'un qui est droit de cœur, qui a vécu des choses difficiles, dise « Voilà, ben je n'ai plus ce privilège, je n'ai plus la chance de pouvoir venir à Dieu parce que j'ai fait des choses mauvaises. Je ne mérite pas le pardon de Dieu. » Dans sa tête, il se dit « Je ne mérite plus le pardon de Dieu. » Il vit avec son passé. Le fait de vivre avec son passé, vous n'avancerez pas. Vous aurez toujours le diable qui va vous tenir à la botte. Il va vous tenir à la cheville. Et puis, quand vous avez un boulet, ben c'est dur de marcher, hein, parce que vous avancez moins vite. Vous savez comment on fait pour... vous voyez un peu la dimension d'un éléphant? Ouais. Bon. C'est quand même une bestiole assez maousse, avec une force impressionnante. Et des fois, dans les cirques, on voit des éléphants qui ont juste une petite chaîne qui leur tient un petit piquet à la patte. Et on sait que quand on les attache comme ça, ils ne vont pas bouger. Et pourtant... il n'aurait pas de mal à faire ça, l'éléphant, et puis à le mettre tout en l'air. Sauf qu'on lui a inculqué, depuis son plus jeune âge, on lui a empêché de marcher avec un pieu un peu plus gros, avec une chaîne un peu plus solide, et le petit, il ne pouvait pas bouger. Il a essayé déjà, quand il était petit, de bouger, mais il ne pouvait pas, parce que c'était vraiment une entrave pour lui. Et ça s'est imprimé dans son cerveau. Ça s'est imprimé. À tel point que quand il est adulte, on n'a plus besoin de l'attacher à un gros piquet, mais on met un petit truc avec une petite chaîne. Il sait qu'il a une entrave à la patte et qu'il ne pourra plus bouger. Parce que c'est imprimé dans son cerveau. Et aujourd'hui, on est trop avec des choses comme ça imprimées dans notre cerveau. Parce qu'on vit avec notre passé. Et le passé doit être effacé. Le passé, on doit passer au-dessus de notre passé. On doit dire « Seigneur, ok, tu m'acceptes, je prends maintenant le présent et je prends demain. Et on va avancer ensemble. » Et les entraves que j'ai à la cheville, eh bien, Seigneur, tu les enlèves. C'est pour ça que la Bible nous dit qu'on doit briser les liens du passé. On doit briser les liens de famille. On doit briser des liens qui nous empêchent d'avancer avec Dieu. Parce que tant qu'on a cette entrave qui nous empêche d'avancer, si on n'avance plus, on reste sur place, on prend racine. Vous êtes d'accord avec ça? On a un Dieu tellement grand. On a un Dieu tellement grand. Tellement grand. On l'a chanté tout à l'heure. Combien Dieu est grand. Combien Dieu est grand. Et par rapport à tout ce partage que je vous amène, et c'est aussi le cœur de Sandy, ce matin, la louange a été portée sur la présence de Dieu. La présence de Dieu. Tous les chants qu'on a chantés étaient tournés vers la présence de Dieu. Et si on veut vraiment avancer, on doit rester dans la présence de Dieu. On doit rester dans la présence de Dieu. Rester là à dire, Seigneur, je vais nourrir le chien blanc et je ne vais pas nourrir le chien noir. Parce que dans notre vie, on a le choix. Soit on nourrit le chien blanc, soit on nourrit le chien noir. Si on nourrit le chien blanc, on reste avec Dieu et on reste à son écoute. Et à partir de là, Dieu va dire, ok, on y va. Allez, on avance. Allez, en avant nous autres, comme disait un de mes amis australiens. En avant nous autres. On va avancer. Dieu ne demande que ça. Dieu nous attend. Il est là. Et il nous attend. Des fois, la configuration des églises, et d'ailleurs la configuration de toutes les églises, est exactement la même que le tabernacle dans la Bible. C'est-à-dire que vous avez l'éparvis, le lieu saint, le lieu très saint. On a l'éparvis, là-bas. On a le lieu saint, qui est là. Et beaucoup considèrent que le lieu très saint est ici. Et qu'à partir du moment où vous êtes sur une estrade, ben vous êtes dans la présence de Dieu. Et que la présence de Dieu, elle est que là. Mais peu importe. Si je viens et que je prêche ici, est-ce que la présence de Dieu sera là? Si je vous laisse ici et que je vais parler dans les parvis, est-ce que la présence de Dieu sera encore là? Et si vous montiez avec moi sur l'estrade? On pourrait, hein? Je pourrais très bien me mettre là, comme ça. On met vos chaises là, et puis on est sur l'estrade. Est-ce que ça veut dire que l'impact de mon prêche sera plus important parce que tout le monde sera ici sur l'estrade? Ben non. Parce qu'aujourd'hui, on a le privilège et la grâce, depuis que Jésus est mort sur la croix, de pouvoir entrer dans le lieu très saint. Et que Dieu nous a donné sa présence. Et que Dieu est venu vers nous. Il a déchiré ce voile du bas vers le haut. Et il a dit, ok, voilà, ma présence, elle est là. Allez-y, venez me voir. Venez me voir et on va avancer ensemble. Moi, je pense que c'est une superbe espérance. On a un grand Dieu. On a un Dieu qui vraiment est pour moi, celui qui est inévitable. Comment font les personnes aujourd'hui pour ne pas être avec Dieu ? Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça va être ma conclusion. Ça va être ma conclusion. Ne vous conformez pas au siècle présent. On est dans ce monde, on ne vit pas dans ce monde. Mon cœur est, et tout à l'heure j'entendais Chanel parler de la collecte alimentaire. Moi, mon cœur, il est de un jour, notre Église puisse se ouvrir ses portes et qu'on puisse aller dans la rue et faire du social. C'est ça mon cœur. C'est de pouvoir aller aider les personnes qui ont besoin de leur aide. Il faut des moyens, bien évidemment, il faut des moyens pour ça. Mais même sans moyens, on peut très bien aider. On peut très bien aider. Pendant la formation biblique, on a eu un cours sur l'œuvre sociale. Et quand on voit l'église de Mulhouse, l'œuvre sociale qu'ils font, ils ont une répercussion sur la ville maintenant. Et maintenant, il y a même la mairie qui travaille avec eux. Tout comme des grosses églises comme à Montréal, ou là où sont en ce moment, bientôt, Antoine et Christiane. Ils ont aussi une œuvre sociale. À Noël, ils font une grande fête où ils invitent tous les enfants du quartier. Ils font rentrer les voitures de police avec les flics dans l'église. Donc les enfants peuvent parler avec la police. Donc ça renoue, d'un point de vue social, les chrétiens avec la police et les jeunes des rues, etc. Ils leur offrent des cadeaux, etc. Il y a un témoignage qui est là. Et moi, j'ai à cœur ça. J'ai envie qu'on puisse, non pas être dans ce monde, que le monde n'ait pas d'impact sur nous, mais que nous, on a un impact dans le monde. Et je pense que c'est ça la vocation de l'Église. Et c'était déjà ça dans les actes des apôtres. Quand vous regardez bien, à partir du moment où il y a le mot chrétien qui est apparu, à partir du moment où il y a l'Église primitive qui a été créée, qu'est-ce qu'ils ont fait, les chrétiens? Ils ont apporté tous leurs biens, et ils ont tout mis en commun, et ils ont partagé. Alors attention, je ne parle pas de communisme, hein. C'est pas non plus ça, hein. Mais la vocation de l'Église, la vocation première de l'Église, et je pense que cette vocation doit revenir aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir un témoignage puissant là où on est. Que le monde n'ait pas un impact sur nous, mais que nous ayons cet impact dans le monde. Est-ce que vous avez envie de ça? Bon, je vais le refaire tout à l'heure, et le Amen sera plus fort. C'est peut-être la vision de Frédéric, ça. Ok. Et je pense que c'est la vocation de l'Église à la base. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Je pourrais très bien prendre ma guitare et puis aller jouer au coin de la rue. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Je me suis pris des crachats et je me suis pris des pièces. J'ai pris les deux. J'ai pu avoir un impact sur certains. Ça dérange. Je me souviens, c'était des jeunes qui passaient en scooter et puis à chaque fois qu'ils passaient, ils nous jetaient des pièces et tout. C'était rigolo. Et je l'ai fait. Où ils sont aujourd'hui ces jeunes? Par contre, si demain ces jeunes, je vais les voir et que je peux les aider, et dans mon témoignage personnel, pas dans un témoignage verbal, mais dans un témoignage dans le fait de vouloir les aider, peut-être que j'aurai cet impact qui sera plus sympa. C'est-à-dire que je vais pouvoir leur dire un jour, voilà, t'as vu, je t'ai aidé. Ben, ça n'empêche que je suis chrétien. Je t'ai aidé dans certaines choses, là, tac, tac, mais regarde-moi ce que j'ai envie de te dire aussi. Je t'ai aidé dans ça, dans ça, dans ça. Mais sache que je peux t'aider en allant plus loin. Je peux te parler de mon Jésus, de mon Dieu, qui lui m'aide. Un peu d'anglais, pour finir. Ça te dépayse, Sandy? Souvent, le diable te rappelle ton passé, mais rappelle-lui son avenir. Et ça, c'est nickel. Vous avez dans votre tête, c'est souvent là qu'il vient travailler. Hein. Il va venir et il va vous dire, mais tiens, tu te souviens, avant tu faisais ça. Je pense pas que Dieu t'ait pardonné ça. Puis toi, tu vas lui dire, ouais, mais attends, ok, moi, mais Dieu m'a pardonné. Quoi que tu crois, Satan, Dieu m'a pardonné. Par contre, tiens, je vais te parler de ton avenir à toi. Et là, fuyez loin du diable, il fuira loin de vous. Loin du péché, le diable fuira loin de vous. Ça, c'est un point qui est important. Il faut qu'on puisse avoir cette force de caractère, de dire, ok, moi j'ai eu un péché, ça c'était mon passé, Dieu m'a pris, effectivement, je peux avoir encore des pensées sur ce péché-là, mais je vais travailler avec Dieu pour que mon péché puisse disparaître de ma vie. Il va disparaître peut-être progressivement, du jour au lendemain, mais Dieu va m'aider. Et puis le diable va venir et puis va dire, ouais, mais attends, regarde ton péché, ouais, c'est vrai que ça fait quelque temps que tu ne l'as pas pratiqué, mais regarde, bientôt tu vas le refaire là. Parce que tu le faisais dans le passé, ça ne te gênait pas. Ça ne te créait pas de soucis. Ben non, je vais résister. Ma force de caractère fera que mon espérance avec Dieu, avec le Saint-Esprit qui m'accompagne, je vous rappelle qu'on est le temple du Saint-Esprit. On est le temple du Saint-Esprit. Je parle pour moi, hein, bien évidemment. C'est le prêche, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis. Mais là où je vais résister au diable, le diable un jour fuira. Parce qu'il dira, ok, lui il a une ferme assurance en Dieu. Avec le Saint-Esprit, je vois que pouf, sur ce péché-là, je ne vais pas l'avoir. Peut-être que je l'aurai sur un autre. Peut-être que ben, je vais lui donner un petit truc là, qui va faire que dans sa vie, il va chuter. Et il va continuer. Le diable continuera. Mais il verra, au bout d'un moment, que vous avez une ferme assurance en Dieu. Un jour, j'avais prêché et j'avais ramené un clou et un marteau avec une planche. Et le chrétien, c'est le clou. Et plus on lui tape sur la tête au chrétien, et plus il s'ancre dans son support. La Bible. Et on tape sur le chrétien, le diable va venir vous taper sur la tête. Mais ça va faire que vous allez avoir une ferme implantation sur la Bible, dans votre espérance en Dieu. Moi, j'ai cette espérance en Dieu. J'ai cette espérance de dire, Seigneur, ok, moi, ma vie, elle n'est pas parfaite. Je n'ai jamais dit que j'étais parfait, comme personne ici peut dire qu'il est parfait. Mais Seigneur, moi, j'ai cette espérance en toi. J'ai cette espérance que ma vie, tu la connais de bout en bout. Tu connais le nombre de peu de cheveux que j'ai sur la tête. Tu connais tout de ma vie. Et je sais, Seigneur, que toi, eh bien, tu vas me mener là où tu veux que je sois. J'ai des promesses sur ma vie. J'ai des visions sur ma vie. J'ai reçu des choses de Dieu. Dieu m'a dit, Frédéric, voilà, moi je t'appelle à ça dans ta vie. Ok, Seigneur, j'y vais tout de suite. Hop, je m'en vais. Non, Dieu a dit, non, Frédéric, attends. Attends, je vais t'équiper. Ou alors je peux dire à Dieu, oui, d'accord, tu veux que je fasse ça. Mais attends, je suis incapable. Je suis incapable parce que tu connais mon passé. Et là, Dieu te dit, mais... Ton passé, quel passé? J'ai oublié ton passé. Mais dans ce que je vais mettre dans ton cœur, ce que je vais tatouer dans ton cœur, cette vision que je vais mettre, cette espérance que je vais mettre, et là j'en reviens à mon prêche de la semaine dernière, les visions. Dieu va te dire, hé, on va bosser ensemble. Et là, vous avez Dieu qui est là. Il est même là devant vous, parce qu'il marche devant vous, comme il a fait avec le peuple d'Israël dans le désert. Il y avait une colonne de feu, il marchait la nuit, et une nuée pendant le jour. Et Dieu était devant son peuple. Dieu, il va marcher avec vous et devant vous. Et dans les moments difficiles, il va vous porter, il va vous prendre dans ses bras, il va vous porter. Et au moment où vous pourrez marcher, il va vous reposer et vous pourrez marcher. Mais il va toujours être là et dire, ça va? Ça va? Tu arrives à marcher? Parce que Dieu, c'est ça son cœur. Dieu, il veut qu'on puisse être un peuple glorieux. Il veut qu'on puisse être un peuple conquérant, un peuple de guerriers. Et pour ça, il faut absolument que l'on puisse avoir une ferme assurance en lui, qu'on soit en bonne santé spirituelle, qu'on puisse avoir une croissance, qu'on puisse être des disciples armés jusqu'aux dents pour pouvoir avancer dans ce qu'il a à nous donner. Est-ce que vous croyez à tout ça? Ça, c'est mon cœur. C'est vraiment moi de me dire, ok, on y va. J'ai vécu la dernière fois une expérience qui m'a fait plaisir. Et je ne vais pas vous dire ça par orgueil. Ce n'est pas du tout ça mon objectif. Au dernier culte en commun, à la fin du culte, on a Antoine qui a demandé aux deux Fred, hein, Fred et puis moi, de prier pour les malades. Vous vous souvenez? Je ne sais pas si pour ceux qui étaient là. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais pas comme ça spontanément sans qu'on me le demande. Et j'ai prié pour Jacqueline Planchon. Elle s'est levée, elle était là, elle avait de la peine et donc je l'ai prise dans mes bras et j'ai prié pour elle. Et puis elle est venue me voir la semaine dernière au culte en commun. Elle me dit, mais Fred, j'avais un décollement de la rétine. Quand tu as prié pour moi, guéri. Et là, je me suis dit, zut. Zut. Ouais, ça m'a plus embarrassé. Enfin, ça m'a réjoui, mais ça m'a embarrassé. Parce que, et on a eu un partage avec Fred. Fred me disait, et il a tout à fait raison, pour moi, je pense que la foi de celui qui impose les mains va guérir le malade. Et j'ai eu cette foi en Jacqueline de croire qu'elle était guérie. Et elle a été guérie. Mais elle le croyait aussi, hein, puisqu'il y a aussi la foi d'une malade qui peut intervenir. Et Jacqueline était guérie. Et moi, ça me réjouit dans le sens où je crois fermement, et ça c'est mon cœur, je vous le réponds ce matin, ici on va voir des miracles. Amen. Que cette église, elle va voir des miracles. Qu'on va voir des choses qui vont se passer. Parce que je sais que Dieu veut ça. Dieu veut que la métropole lilloise soit une métropole qui marche pour lui. Et je le proclame ce matin. Je dis que moi, dans la métropole lilloise, bientôt, le phare ne sera pas qu'un nom. Ce sera un phare. On va être un phare dans la métropole lilloise. Je peux le dire à chaque fois que je prêche. Je l'ai dit la semaine dernière, mais c'est mon cœur. Je crois qu'on va avoir de grandes choses. Il faut qu'on s'accroche. Il faut qu'on monte dans le train. Ne restons pas sur le quai. Ne restons pas à dire, Seigneur, vas-y, envoie le réveil. Seigneur, envoie le réveil. Réveille-toi. Non, je crois qu'on va voir des grandes choses. Et ce miracle-là, cette guérison de Jacqueline, je lui ai dit, mais est-ce que tu l'as partagé à l'église? Elle m'a dit non. Ben, je dis, mais il faut. Les témoignages dans l'église sont importants. N'hésitez pas, si vous vivez des choses dans la semaine, n'hésitez pas à venir nous voir à l'entrée du culte en disant, voilà, j'ai vécu ça, est-ce que je peux le partager à l'église? Pourquoi? Parce que ça va édifier l'église. Parce qu'on voit que Dieu a une œuvre dans les cœurs de chacun et que Dieu, chaque matin, est là et il a des bontés pour nous qui se renouvellent chaque matin, des choses nouvelles. Il prend les bénédictions de la veille, il les jette et il en met des neuves. C'est cool, hein? Donc n'hésitez pas à partager vos témoignages. On a une page Facebook. Si vous avez des trucs à mettre, allez sur la page. Parlez-en à Fred qui va le mettre sur le site ou qui envoie des mails comme on le fait. Regardez ce miracle avec Philippe Delplanque. Même les médecins sont surpris de la vitesse à laquelle il s'est remis sur pied. On va voir Brigitte Guéry. Moi, je veux croire ça. Je veux croire qu'on va voir Brigitte Guéry. On va voir. Il faut qu'on s'accroche. Il faut qu'on s'accroche. Il faut absolument qu'on puisse rester ferme dans cette persévérance. Les visions, la persévérance, la foi. Et à partir de là, Dieu nous arme. Dieu va nous montrer où on va aller. Et Dieu va nous dire, ok, église, vous êtes debout. C'est une fois que vous êtes debout qu'on y va. On marche. Si on est assis, on ne peut pas avancer. Est-ce que vous avez envie de ça? Moi, j'ai envie de ça. J'ai envie de ça. J'ai envie de voir Dieu agir. Chaque jour, pas chaque dimanche. Chaque jour, que chacun de nous puissions vivre des expériences avec Dieu. Là, on voit des choses qui se passent par rapport à la construction de notre maison. Pendant un moment, avec Pascaline, on se disait, voilà, où on va? Et puis on voit Dieu, boum, il met les choses en place. Juste un petit témoignage. Mardi, j'arrive, je suis allé chercher le carrelage pour nos salles de bain. J'arrive sur le chantier et puis les mecs me disent, tiens, on a changé la clé du barillet, tiens, voilà la clé définitive. Ben, je dis, ok, je vais la prendre. Ça s'est bien goupillé parce que quand je suis revenu le lendemain ou le surlendemain, les mecs étaient à la porte, j'avais la clé pour pouvoir leur montrer le chantier. Dieu a permis, a dirigé pour que je puisse venir. Ce n'était pas prévu, j'étais sur l'île ce jour-là, je ne devais pas venir sur l'île ce jour-là. Et Dieu m'a dirigé, Dieu m'a, hop, j'ai eu envie, je suis passé sur l'autoroute, j'ai dit, tiens, je vais passer à la maison. J'étais au téléphone avec ma mère, je crois. Et puis, j'arrive sur le chantier, puis je vois les mecs qui me regardent, ils me disent, ouais, comme ça. Ils étaient à la porte, j'ai pu leur donner. Dieu a dirigé pour que je puisse ouvrir le chantier, pour que le chantier continue. Autrement, ils étaient bloqués, on perdait une journée. Ça, c'est tout plein de petites choses, des petits détails. Il y a des plus gros détails, je ne vais pas les donner maintenant, mais Dieu, même dans le moindre petit détail, peut vous aider. Ayez cette confiance en Dieu. Croyez en Dieu. Croyez que Dieu est là chaque jour et qu'il a envie qu'on avance. Amen. Seigneur, je te remercie. Je te remercie pour ce partage. Je te remercie parce que c'est toi notre espérance. C'est toi notre espérance, Jésus. C'est personne d'autre. Moi, je ne veux pas avoir une espérance envers des dieux, envers quoi que ce soit, mais je veux avoir une espérance en Dieu. Je ne veux pas que ce soit même mon esprit personnel, mon esprit charnel qui vienne et qui intervienne, Seigneur. Je veux que ce soit toi qui intervienne dans mon esprit. Je veux que ce soit toi qui me fasse grandir en toi. Je veux que ce soit toi qui dirige chacun de mes pas, Jésus. Vraiment, je te rends grâce parce que cette église, Seigneur Jésus, ça va être une église conquérante pour toi. Non pas par orgueil, non pas le fait de se dire, voilà, on est une belle église, etc. Mais parce qu'on est une église qui aura un cœur pour les nations, un cœur pour la métropole lilloise, un cœur d'aide, un cœur où on a envie d'aller aider ceux qui ont besoin de toi. Parce que Seigneur Jésus, la vocation première de ton église, c'est de pouvoir aller aider, et de créer, et d'aller voir les nations et de créer des disciples. Merci Jésus, parce que c'est toi qui vas abonder et surabonder dans notre église. Et ça, ce matin, je le proclame. Que non seulement, Seigneur, tu vas abonder sur nos paroles de tout ce que j'ai partagé ce matin, parce que c'est toi qui as mis ça dans ma bouche. Mais Seigneur, non seulement ça, mais tu vas surabonder. Vraiment, je te rends grâce pour tous tes bienfaits, Jésus. Amen. Amen. Je voudrais qu'on se lève, et puis je voudrais qu'on ait quand même, enfin quand même, qu'on ait un moment où on va prier pour Brigitte. On va prier pour nos malades. Parce que c'est important, vous avez certainement reçu le mail de cette semaine de Fred disant qu'on a des malades dans l'église. Et nos malades doivent être guéris. C'est quelque chose, moi, qui repasse souvent dans ma tête. Dans la Bible, il est mis, vous imposerez les mains aux malades, ils seront guéris. Il n'y a pas de condition. C'est pas mis, si tu crois fortement, si tu imposes la main sur sa tête et la deuxième sur son épaule gauche. Et, non, c'est mis, si vous imposez les mains aux malades, ils seront guéris. La prière, est la plus, c'est pour moi ce qui a la plus grande importance et la plus grande efficacité. On va prier pour Philippe Delplanque, pour qu'il continue à se remettre sur pied. Parce qu'en ce moment, on voit une attaque du diable dans l'église là-bas. Et le diable a voulu couper la tête de l'église pour que l'église chute. Et ça, on va dire non au diable. Ce matin, on va dire non au diable. D'accord ? On va prier pour Brigitte également, pour qu'il y ait cette rémission. Même si elle paraît en forme, moi je veux voir son corps qui soit rendu sain. Amen. Seigneur Jésus, moi je veux croire ce matin, je veux croire que tu es un grand Dieu. Je veux croire, Seigneur Jésus, que tout ce que tu nous as dit dans ta parole est vrai. Je veux croire, Seigneur Jésus, dans chacune des paroles de ta Bible, Seigneur Jésus. Et lorsque tu mets dans ta parole que nous imposerons les mains malades ou que nous prierons pour les malades, ceux-ci seront guéris. Et ce matin, moi je veux proclamer la guérison, Seigneur Jésus. Je veux proclamer un état de grâce, Seigneur Jésus, sur chacun de nos malades. Seigneur Jésus, on a une liste qui peut être longue, plus ou moins longue, Seigneur Jésus, mais ce matin, moi je veux prier pour Philippe Delplanque. Et je veux, Seigneur, proclamer, Seigneur, que tu continues ce matin à faire ton œuvre dans son cœur, dans son corps, dans tout, Seigneur Jésus, toute cette situation. Que tu continues, Seigneur Jésus, à le remettre sur pied. Tu peux lui donner un pancréas tout neuf, Seigneur Jésus. Tu peux lui donner un pancréas tout neuf. Tu peux même chasser le diabète, Seigneur, dans sa vie. Tu peux faire en sorte que son corps redevienne sain. Que toutes les fonctions, Seigneur Jésus, qui sont dans son corps peuvent redevenir saines. Et ce matin, je proclame, Seigneur, un moment de guérison, Seigneur Jésus. Et que maintenant, Seigneur Jésus, dans cette prière, toute l'Église se joint à moi, Seigneur Jésus. Et qu'il va ressentir les bienfaits de ta guérison. Maintenant, Seigneur Jésus, moi je veux proclamer la guérison des pieds à la tête de Philippe. Que tu puisses, Seigneur Jésus, faire qu'il revienne, Seigneur, dans son service pour toi, dans son ministère. Et que, Seigneur Jésus, par cette guérison, il puisse se passer de grandes choses dans cette église. Seigneur, je veux voir, Seigneur, que cette église va grandir pour toi, Seigneur. Je veux voir, Seigneur, une tête qui sera en pleine santé. Une pleine santé dans la tête, Seigneur Jésus, qui va aussi permettre de pouvoir voir des guérisons et des miracles dans son église. Et je veux dire ce matin au diable qu'il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de s'attaquer à l'église de Dieu. Et qu'il n'a pas le droit de créer quoi que ce soit, aucune gêne pour la croissance d'une église. Et je veux proclamer ce matin que Dieu, tu es plus grand que le diable et que c'est toi, Seigneur Jésus, qui va remettre sur les rails de cette église. Vraiment, je te rends grâce, Seigneur, pour ça. Je veux te remettre Brigitte aussi, Seigneur. Je te remets Brigitte dans tout son corps, Seigneur, ce nodule qu'elle a sur les poumons, ces nodules. Seigneur Jésus, c'est pareil. Moi, je veux voir, Seigneur, que ta main est capable de guérir, qu'elle est capable, Seigneur Jésus, de tout assainir, Seigneur Jésus, et de faire en sorte que dans son corps, il n'y ait plus rien. Ce matin, je proclame un état de guérison sur Brigitte, de faire, Seigneur, qu'elle puisse sentir là aussi, Seigneur, cette prière que, pour laquelle on se lève maintenant, et qu'elle puisse ressentir, Seigneur, le bienfait dans son corps. Merci parce que tu vas faire en sorte que les prochains examens qu'elle passera seront bons, Seigneur Jésus. Peut-être que ce sera une guérison instantanée, peut-être que ce sera une guérison dans le temps, mais Seigneur Jésus, c'est toi qui vas agir. Et au nom de Jésus-Christ, je veux proclamer la guérison maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Jésus. Merci Seigneur. On va finir par un chant. Vous allez toujours bien? Vous avez le feu? Ouais. Vous êtes prêts pour un dernier chant? Oui? Bon. Ouais.
Déclare.